Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Guy Bedos était un gêneur professionnel, dont le rire armé, féroce, candide, hargneux, fragile, n'était pas fait pour soulager, mais repérer le mal sous le masque du bien. Tout un pan de la culture populaire française va s'envoler avec lui, Guy Bedos, à qui son fils Nicolas a écrit « Embrasse des proches et d'Abadi, vu que vous êtes tous au paradis ». Je vous propose de retrouver Guy Bedos, solaire, acide et malicieux, dans une interview qu'il m'avait accordée.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Guy Bedos, si vous refaites du théâtre, c'est pour vous faire plaisir ou faire plaisir à votre fils ?
J'espère que ça va lui faire plaisir. Mais je veux me faire plaisir à moi aussi. Je ne m'oublie pas. Je peux vous assurer, pour qu'on n'en parle plus après, que je ne joue pas la pièce pistonner en quelque sorte mon fils. La pièce m'aurait été envoyée par un réfugié bosniaque par la poste, je l'aurais joué. C'est pas du tout... c'est bien sûr une belle histoire entre père et fils, parce qu'on s'entend très bien, parce que on n'a pas besoin de se parler parfois pour se comprendre. Bref, c'est... je suis le père que j'aurais rêvé d'avoir.
Alors justement, il ne s'agit pas du tout d'un réfugié bosniaque, il s'agit bien de votre fils Nicolas. Il l'a écrite en fait pour vous, sur mesure, cette pièce, ou bien vous lui avez piqué son manuscrit ?
Non, je sais pas s'il l'a écrite sur mesure, parce que le rôle est quand même assez loin de moi. C'est une sorte de cauchemar de moi-même, le rôle.
J'aime beaucoup la formule.
Ah oui, c'est, non, mais parce que
c'est-à-dire si qu'en fait, il s'agit, n'est-ce pas, d'un misanthrope, d'une noirceur bien plus radicale encore que celle que vous nous avez démontrée depuis 40 ans.
Sur scène, tout du moins. Parce que dans la vie, je suis plutôt vivable, paraît-il. Mais, sur scène, effectivement, n'endimanche pas les vacheries que j'ai envie de balancer ici ou là. Ça, c'est sûr, mais ça serait une faute professionnelle si je le faisais pas. Les gens viennent pour ça. Si j'étais sur scène, comme je suis dans la vie, c'est-à-dire plutôt vivable, il y aurait personne dans la salle.
Ah, on n'a jamais fait rire avec de bons sentiments. Hein.
Et si j'étais dans la vie... Comme je suis sur scène.
Vous seriez seul, Guy Bedos.
C'est exactement
Tout le cas.
C'est exactement ce qui arrive à Monceau. Le personnage que je vais interpréter, il est voué à vivre avec une femme de ménage, j'allais dire une soubrette, parce que dans la construction de la pièce...
Ça relève presque, effectivement, des grands caractères de Molière.
Exactement. Mon personnage, c'est à la fois Alceste, et un peu argant du malade imaginaire. Sauf que lui, il n'est pas un malade imaginaire parce qu'il est vraiment malade. Il est en fin de vie, il est malade et il est ructe, littéralement.
Il est acariâtre.
Et il est à la fois, en effet, furibard, mais drôle. Drôle parce que furibard, parce que c'est l'outrance qui fait rire. Et derrière ça, il y a une blessure, bien sûr. Et on en a encore plus conscience quand... En deuxième partie, sa nièce, qui est la fille d'une sœur qui méprise de façon pyramidale, s'amène avec toute la fraîcheur de ses 20 ans. Et là, c'est le passage drôle, parce que je sais pas, elle l'initie à toutes sortes de choses, notamment à fumer les joints, enfin des choses comme ça. La pièce est drôle, hein. La pièce est... Et là, bon, il y a tout ce que j'aime. Moi, je suis très heureux que mon fils m'ait libéré de mes spectacles.
Puisqu'il s'agit d'un homme en colère dans cette pièce, vous avez le sentiment que, avec l'âge, on a tendance à excuser plus vite ou condamner plus vite?
J'ai envie de dire les deux, mon général.
Faut choisir.
Non, c'est pas si simple, pardon, mais c'est... Avec l'âge, le temps est compté, on entre dans les années courtes, et on essaie de ne pas s'attarder avec des gens facultatifs. Quand je dis facultatifs, je ne parle pas de l'aspect social des choses, hein. Il y a des gens très importants que je ne veux pas voir. Voilà. Donc on fait son choix, de plus en plus. Mais en revanche, on a a tendance, quand je dis on, moi, je suis comme ça, à retenir plus volontiers le bon que le mauvais chez une personne. Moi, de toute façon, je ne suis l'inconditionnel de personne, même pas de moi. Donc, je vois les choses, je vois les failles ici ou là.
Mais avec l'âge, on a tendance peut-être par confort à pardonner ?
Pas par confort, sincèrement. Ah ben, pas à pardonner, à accepter quelqu'un. La plus belle preuve d'amour ou d'amitié qu'on puisse donner, c'est d'aimer aussi les défauts.
Alors, puisque cette émission se propose d'être aussi un portrait qui repart d'ailleurs de l'enfance, il y a quelqu'un, Guy Bedos, que vous avez eu 70 ans pour apprendre à pardonner. Vous n'y êtes toujours pas arrivé, c'est votre mère.
Ah, laissez tomber pour moi. Je vois arriver des bougies.
Alors, non, mais dites-moi. On a tous en tête la caricature délicieuse de la mère pied noir dans tous ses excès, qui était la vôtre dans Un éléphant, ça trompe énormément.
Marguerite Lalonga,
n'est-ce pas?
Interprété le rôle.
Voilà.
Et mais le personnage
a été
inspiré par ma mère. Dabadi a pompé, si j'ose dire, ma mère,
oui,
beaucoup.
Mais alors, elle était excessive, même dans les sentiments. Or, oui. Il semble que les débordements d'amour qui agitaient cette mère de cinéma, votre mère à vous, dans la vie vraie, voilà, elle ne les connaissait pas.
Non, ça...
Comment fait-on le deuil de sa mère, Guy Bedos, en fait, du vivant de sa mère ?
Oh là là !
Parce que j'ai
vous
lu...
allez fort, là, vous
mais
y allez
non,
fort.
Non, je reprends vos propres
question.
Mots. Je reprends vos propres mots. Peut-être les avez-vous dit un jour de colère. Mm-hmm. J'ai lu, dans certains articles, cette phrase terrible.
C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Oui, je suis obligé d'avouer que... Mais j'ai pris mon temps, hein. J'ai dû faire à l'âge de 60 ans.
Ah,
parce
oui.
qu'elle avait attaqué l'un de mes enfants. Et là, je me suis dit, bon, basta, così, ça va. On arrête tout. Mais j'ai pris mon temps. J'ai fait ma première tentative de suicide à 12 ans. Vous voyez? Je reviens de loin. J'ai été suicidaire pendant une partie de ma vie. J'ai été guéri par mes enfants. Je trouve que quand on a donné la vie, on n'a pas le droit de se donner la mort, sauf si franchement ça va comme ça, la maladie ou je ne sais quoi de vraiment invalidant. Alors là, on verra. Mais sinon, non. Mais oui. Non, mais je veux pas faire pleurer dans les chaumières.
Elle n'a pas perçu à 12 ans cet appel désespéré qui était le vôtre.
Non.
Si vous
non.
dites j'ai fait ma première tentative de suicide, c'est resté.
Non, je me suis enfui.
Silence.
J'étais fugueur. J'étais malheureux. Non, mais comment vous dire? J'étais un miséreux affectif. Voilà. Mmh. Parce que ça allait sinon. Il y avait de l'argent, il y avait tout ça. Mais j'étais considéré comme un bâtard. J'étais considéré un peu comme.
Parce que vous étiez élevé par un beau-père qui ne vous regardait pas grandir.
Et parce que je ressemblais à mon père qui était très beau. Et donc. Voilà, j'étais, encore une fois, étranger dans cette maison. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour un enfant. Parce que...
Alors, c'est cette douleur qui vous a mis en colère pour le restant de vos jours, qui vous a fait vivre dans une espèce d'expiation définitive ?
Non, parce que, entre-temps, encore une fois, j'ai été consolé... par plein de, pour ne parler que des femmes, par plein de faits, dont même des amis, je sais pas, Barbara, la grande Barbara, la chanteuse, a été une sœur pour moi, Simone Signoret, etc. Voilà. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes anonymes. Vous savez par qui j'ai été sauvé, vraiment ?
Par qui ?
Entre 5 et 7 ans, par une institutrice à la campagne. On m'avait mis en pension parce qu'on se débarrassait de moi chaque fois qu'on pouvait. Et ben c'était un cadeau qu'on me faisait parfois, parce que je tombais sur des gens formidables. Et là, à la campagne, une espèce de José Bové en jupon qui m'a appris à écrire, à compter, compter j'ai moins retenu, et à penser aussi. Et j'ai appris les droits de l'homme et de la femme, entre 5 et 7 ans. Et c'était plié, à partir de là. Depuis, je ne fais que radoter. Avec un peu plus de vocabulaire.
Dans quelques instants, la suite de cet entretien avec Isabelle Morizet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, sur Europe 1. Europe 1.
Cette semaine, vous le savez, Guy Bedos a tiré sa révérence à l'âge de 85 ans. Cet après-midi, eh bien, Isabelle Morizet vous propose de réécouter un entretien qu'il lui avait accordé en 2004. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors Guy, on évoquait à l'instant le terreau familial dans lequel vous avez grandi, sans amour. Quelle a été votre première décision d'adolescent pour fuir tout ça et prendre la tangente ?
Le cancer.
Bien.
Elle ne s'attendait pas à ça, Isabelle Morizet.
Alors, dites-moi.
Elle me cherche, Isabelle Morizet.
Mais oui, je vous cherche, mais j'espère vous trouver surtout. Non, mais.
Non, mais c'est vrai.
Pour échapper,
j'ai échappé. Non, mais c'est vrai, on a cru que j'avais un cancer, que j'avais une leucémie, que j'avais un truc des ganglions, etc. Et en fait, j'étais très contrarié. Parce que si c'était un cancer, c'est vraiment, ça fait, j'avais 17 ans, et je me suis retrouvé effectivement à l'hôpital des enfants malades, professeur Jean Bernard, avec des biopsies, des machins, et puis en fait j'avais une énorme dépression, et j'ai fait du théâtre sur ordonnance médicale. C'est un médecin qui a dit à ma mère, laissez-le faire du théâtre, sinon il va mourir, il meurt d'ennui et de mal-être.
Donc c'est comme ça que, en 1950, lorsque votre famille a fait ses valises pour, avec précaution effectivement, débarquer à Paris, vous êtes retrouvé rue Blanche, en train de prendre des cours de théâtre.
En 1950, j'avais 16 ans, donc j'ai dû entrer au centre de la rue Blanche, oui, école d'État, à l'âge de 17 ans et demi, oui. Et à 18 ans, je faisais ma première mise en scène, je montais Harlequin poli par l'amour de Marivaux, dans lequel je jouais le rôle principal, et je rencontrais le public, parce qu'il y avait
un public de jeunes gens. Donc le théâtre a été une révélation immédiate.
Ah oui. J'avais quelqu'un devant moi qui pouvait gêner ma carrière d'acteur classique.
Qui était-ce ?
Robert Hirsch, qui jouait exactement les rôles que j'ai travaillé, moi, à l'école de théâtre. Et donc, effectivement, ma carrière d'acteur classique était un peu compromise. Et puis, je suis allé faire un tour un peu du côté de chez Villard, au DNP. La malice de la vie a voulu que, longtemps après, je joue chez Villard La résistible ascension d'Arthur Houy, de Bertolt Brecht, qui avait été joué d'abord par Villard, mais aussi par Robert Hirsch. Et je l'ai joué. Derrière lui, bon, donc j'étais voué à aller sur les traces de ce garçon.
Mais auriez-vous pu continuer sur ces rails-là, Guy Bedos ?
Mais les rôles qu'on me proposait m'a proposé...
Jouer Brecht, sous la direction de Villard.
Mais oui, mais on ne me l'a pas proposé. Mais à un
vous
moment...
aviez quel âge, par exemple, lorsque vous êtes parti en tournée avec la Comédie Française, avec pour parrain Robert Hirsch, Jean Le Poulain et Jacques Charon ?
Ben, j'avais 20 ans.
20 ans.
Ouais, je me suis
et vous étiez sous la bannière de la Comédie Française.
Oui. Je jouais Giraudoux, on jouait 7 pièces en alternance. Et voilà. Et j'étais à mon aise, là. Mais après, quand je me suis marié, que j'ai eu ma fille Leslie, et puis qu'il fallait... Parce que ce métier, c'est une passion, mais c'est un métier aussi. Il faut vivre, il faut faire vivre sa famille, etc. Et on n'a pas toujours le choix quand on débarque. Et donc, je me suis retrouvé dans des pièces de boulevard à la con, où, vous savez, les jeunes, j'ai toujours eu horreur des jeunes, des rôles de jeunes dans les pièces dites de divertissement, vous savez. Genre, salut pas, tu veux me filer la bagnole pas.
Et vous aviez l'âge de ces rôles-là.
Mais oui, j'avais l'âge, mais j'avais pas la. Dans la tête, ça se passait pas comme ça. Et heureusement, entre-temps, j'ai joué un sketch, je me souviens, parce qu'on faisait pas ses débuts dans le One Man Show comme ça à l'époque. On jouait un truc. Et j'ai joué un sketch de Jacques Chazot, qui était un ami, parce que j'avais toute une bande de gens qui étaient, c'est pas un secret, homosexuels autour de moi, qui me trouvaient tout à fait charmant d'ailleurs. Et j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Jacques Prévert, de rencontrer Boris Vian, de rencontrer...
Audi Berti.
Et puis,
quelles étaient vos relations avec Prévert?
Mais très furtive. Mais il y a des gens dont on n'a pas besoin de devenir l'intime pour être fier de les avoir rencontrés. Moi, d'avoir eu quelques conversations avec Prévert. Mais je suis toujours comme ça, moi. Aujourd'hui même, à l'âge que j'ai, quand tout d'un coup je me suis retrouvé en face d'Arthur Miller, parce que j'avais adapté une de ses pièces et que j'avais joué une pièce de lui à Paris, je me disais, bon, ça me rappelait des tas de choses que Simone Signoret m'avait raconté, etc. C'était toute une certaine Amérique. Bon, voilà, et puis il me parlait de Marilyn et tout ça. Je suis très... Comment dire, j'ai toujours aimé les gens qui sont plus importants que moi, pas plus. Je n'aime pas. J'ai pas de cours. J'ai des amis.
On va inventer un mot. Émerveillable.
Oui. C'est joli ça. Mais oui, absolument. J'ai gardé une fraîcheur extraordinaire, aussi bien dans mes colères, en effet, et dans mes indignations, que dans mes enthousiasmes et dans mes surprises. La vie est pleine de bonnes surprises, et les bonnes surprises, quelquefois, ont un visage.
Mais est-il vrai que lorsque vous avez pris la décision, parce que le téléphone ne sonnait trop rarement, et que vous aviez envie de monter sur scène et jouer, est-il vrai quand vous avez pris la décision d'écrire vos propres sketchs, Audy Berthy a accepté, je ne vais pas dire de corriger vos copies, mais en tout cas de lire ces textes, et vous a réellement encouragé?
Je veux dire, ça a été mon nègre, Audy Berthy.
C'est beaucoup mieux.
Oui. Et je le savais même pas. À partir d'un spectacle de moi, on a fait un film qui s'appelait Dragée au poivre. Et puis un jeune producteur est venu me voir pour me dire et si on en faisait un film. Et donc j'ai rencontré Jacques Baratier, qui avait fait des films très poétiques, un peu fous et tout ça. Bon, et qui était très différent de moi, mais le cocktail a été assez formidable. Et puis surtout, on a eu la chance d'avoir un générique hallucinant pour l'époque, puisque la première, alors qu'on se connaissait pas, a plongé, ça a été Simone Signoret. Et à partir de là, Jean-Paul, qui était mon meilleur copain,
Belmondo,
lui, il voulait y faire un caprice, il voulait, parce qu'il sortait d'À bout de souffle et de, comment s'appelle l'autre film de
Godard,
Pierrot le Fou, bravo.
Donc, il surfait en tête de la nouvelle vague et tout à coup, il s'est dit, tiens, je m'offre une récréation assez surréaliste.
Il voulait Marlène Dietrich comme partenaire. Ce qui fait que je me suis tapé, non pas Marlène Dietrich, mais un dîner avec l'Ange Bleu pour essayer de la convaincre de tourner dans mon film pendant 5 minutes, parce que c'était des sketchs, vous voyez. Et bon, donc j'ai eu un générique, ça partait dans tous les sens, il y avait Francis Blanche, il y avait François Perrier, il y avait des filles sublimes, dont une qui s'appelait Sophie Daumier.
Et voilà.
Mais c'était un tout petit peu, j'étais déjà influencé par les Italiens, qui avaient fait Les Monstres avec Tony Azzi, Gassman, tout ça. J'adorais ce cinéma-là, qui mêlait le rire, l'émotion, la politique, le social, et ça, j'adorais ça. Voilà, j'ai même fait un texte qui s'appelle La vie est une comédie italienne, buona sera, signori, signori, la vie est une comédie italienne, tu ris, tu pleures, tu pleures, tu ris, tu vis, tu meurs, tu vis, comédiante, tragédiante, c'est ça, la vie.
Jean-Loup Dabadi nous a quitté le 24 mai, 4 jours avant son ami Guy Bedos. Guy Bedos, que l'on retrouve cet après-midi sur Europe 1 au micro d'Isabelle Morizet. C'était en 2004. Et vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors Guy, dans la distribution de Dragée au poivre qu'on évoquait il y a un instant, figurait celle qui fut pendant 14 ans votre compagne et votre complice sur scène, Sophie Daumier. La rencontre a eu lieu en 62-63.
62.
Et cette même année, vous avez rencontré celui qui a signé plus de 200 de vos sketchs, Jean-Loup Dabadi. En fait, vous êtes né cette année-là, Guy Bedos.
C'est vrai. C'est vrai. Dabadi, d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que il aurait pu m'en vouloir parce que je l'ai remplacé. Il faisait son service militaire, cet idiot, et moi, pas. J'étais réformé pour maladie mentale pendant la guerre d'Algérie, et je n'ai pas triché. J'étais vraiment malade mental, parce que moi, dès que je vois un uniforme, quelle horreur. J'ai fait la grève de la faim, j'ai failli crever pour tout dire. Mais j'avais d'autres raisons, je voulais pas faire la guerre aux Arabes, voilà, c'est tout. Je voulais pas aller en Algérie casser du bougnoul, parce que c'était contre mes convictions. Et donc, voilà, et on m'a relâché. Mais
pour revenir à Dabadi,
Jean-Loup, lui, il faisait son service militaire, et il était l'auteur d'une émission qui avait un grand succès à l'époque, qui s'appelait Les Raisins Verts, ou l'Histoire de Sourire, enfin, elle s'est appelée, elle a eu plusieurs titre produite par une chanteuse qui s'appelait Michèle Arnaud. Et Dabadi était l'auteur attitré de cette émission, l'auteur humoristique de cette émission. Et puis quand il est parti, moi j'ai le hasard a voulu que je rencontre Michèle Arnaud et puis qu'elle voit mon spectacle et puis qu'elle voit mes textes et j'ai débuté là et je suis devenu comme on dit maintenant récurrent dans cette émission. Et Dabadi a coutume de dire qu'il m'a découvert au foyer du soldat. Il m'a vu à la télé et au lieu de m'en vouloir, il m'a écrit « Bonne fête Paulette »,« Le boxeur », etc., etc. Et donc, nous sommes devenus une espèce de d'aigle à deux têtes. Et on s'est amusé beaucoup, on a ri énormément. Et voilà, et on, par moments, on ne savait plus, d'ailleurs, dans les textes, ce qui était de lui, ce qui était de moi. Dans « Le boxeur », c'est moi qui en ai fait, par exemple, parce qu'à l'époque, il y avait des petits boxeurs comme Cerdan, pas le père, le fils, Alphonse Halimi qui a été dire à Londres « J'ai vengé Jeanne d'Arc !» etc. Bon, et donc c'est moi qui l'ai pied-noirisé, si je puis dire, le personnage, et qui ai inventé le personnage de Ramirez, l'impresario, en somme, le Johnny Stark de ce boxeur-là. Et donc, voilà.
Dites-nous, Guy Bedos, est-ce que c'était compliqué de faire rire sous De Gaulle?
Ben oui, il y avait la censure, la preuve, c'est que même les chansonniers, qui vraiment pourtant ne faisait pas de mal à une mouche, de mon point de vue, était très surveillé par Madame de Gaulle, je crois, qui a fait interdire la boîte à sel avec Jacques Grillo, Robert Rocatz, enfin, tout ceci nous remonte à tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Antédiluvien. Alors depuis, puisque vous aimez bien lancer cette formule, moi j'ai connu 8 quinquennats du rire. Il y a eu des époques plus difficiles que d'autres. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'intimidation? Forcément.
Évidemment.
Non.
Mais ça ne marche pas avec moi, ça. Ni la corruption. Il y a eu aussi des tentatives de corruption. Je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas.
Mais il y a eu des tentatives.
Oui, oui. Et oui, mais on peut corrompre, je sais pas, en vous proposant un appartement ou je ne sais quoi. Non, non, non. Ça marche jamais, ça, pour moi. Mais en revanche, il y a eu une censure qui a été exercée bien plus tard, lorsque je me suis séparé de Sophie. Double malheur, Giscard d'Estaing est élu. Et je choisis de soutenir Mitterrand, moi. Et donc, et c'est pourtant un moment où justement j'ai à me refaire une santé artistique, puisque je suis...
Vous retournez seul sur scène.
Ce que j'ai dit une fois à D, ça donnait Chardin sans Stone. Et donc, effectivement, voilà, c'était comme ça. Le tandem était tellement... On a eu énormément de succès avec Sophie. Et donc, pour leur faire avaler que tout seul, je peux être intéressant aussi, il a fallu que je cogne. Hein. Et j'ai cogné. Beaucoup.
Pendant 2 ans, avant de récupérer votre public.
Oh non.
Ça a été plus rapide.
Quelques mois. Le temps d'écrire un bouquin qui s'appelait Je craque, qui a eu un grand succès, et de m'écrire des nouveaux textes, et de me trouver un nouveau public que je souhaitais. Parce que pour tout vous dire, le public qu'on avait parfois avec Sophie me barbait. J'en avais marre des tournées d'été, j'en avais marre des casinos, j'en avais marre des mecs qui se foutaient en pingouin et des cheveux bleus qui venaient nous voir. Et tout d'un coup, dans la solitude, dans la liberté, parce que je respectais Sophie qui n'avait aucune espèce d'engagement politique. C'était, à sa manière, une anarchiste. Elle se foutait totalement du pouvoir de
rien tout, de l'impressionnant.
Mais rien. Mais en revanche, je n'allais pas commencer à faire ma revue de presse pendant que Sophie faisait du tricot en m'attendant. Donc, j'ai attendu d'être seul pour me lâcher complètement. Et je l'ai fait.
Et avoir le public que vous souhaitiez attraper dans vos filets. Parce que
ben oui, mais je ne l'ai pas fait exprès.
Vous avez cette phrase fameuse, savoureuse. Vous dites, finalement, mon public, il est sans doute meilleur que le public des autres humoristes. Je vous ai entendu.
C'est vrai
dire.
Que je les aime bien, les miens. oui, c'est vrai, je me suis attaché. Et c'est vrai, parce que j'ai la chance, même le temps passant, d'avoir toujours un public très large, où je vois des petites bouilles de très jeunes gens, et puis d'un coup une mamie qui s'éclate, et tout ça. C'est très gai, tout ça. Bon, et effectivement, là je vous parle de mon spectacle habituel. Je vous parle pas de la pièce de mon fils. Là, je sais pas ce que je vais avoir comme public au théâtre, parce que j'ai peur que le théâtre intimide les jeunes gens.
Vous avez peur de ça?
Oui, le théâtre est moins ouvert que l'Olympia, que le Zénith, que le Siècle d'Hiver. Il y a des jeunes gens qui se disent « c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi parce qu'il doit y avoir que des vieux dans la salle. Ben, ils ont qu'à venir. Et voilà, faut. Parce que c'est même pas le prix des places qui peut les décourager, c'est le même prix de place qu'ailleurs. Moi, je préfère le qualitatif au quantitatif, je m'en fous. Je suis pourtant pourcentage, mais je préfère que les salles soient pleines d'un public qui comprenne ce qu'on leur dit et qui sentent et qui reçoivent à 5 sur 5 ce que mon fils a voulu faire passer, plutôt que de faire des places, pardon, mais je vais parler un peu pour des bourges du 16e et de Neuilly, dont je me tape un peu. Voilà, je vous dis ça, franchement, ils ont le droit de vivre, hein, mais c'est pas cela que je cherche.
Hommage à Guy Bedos jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Europe 1.
Et cet entretien d'Isabelle Morizet avec Guy Bedos en 2004 se poursuivra dans un instant. Il parlera de ses spectacles, du cinéma, des femmes aussi, et de ce qui le rend heureuse.
Europe 1.
En 2004, Guy Bedos avait accordé un entretien à Isabelle Morizet, une conversation que nous vous proposons d'écouter jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Guy Bedos, ça fait 40 ans que vous nous faites rire, mais qui vous fait rire, vous ?
Oh, plein de choses, plein de gens, et pas fatalement des professionnels.
Et pas forcément ceux qui cherchent à le faire.
Oui, non, parce que, franchement, il y a des gens. Ma copine Muriel Robin, par exemple, elle me fait tomber de rire dans la vie et sur scène. Pour ne parler que des femmes, curieusement, il y a beaucoup de femmes qui me font rire dans la vie, dont je sais pas le métier, avec qui je m'amuse beaucoup. Des journalistes, des copines, quoi. Bon, j'en ai beaucoup. J'ai pas que des ennemis, hein. Même dans la presse, dans les médias, tu vois. Il y a des gens avec qui je m'entends très bien. Et...
Qu'est-ce qu'il a de plus, l'humour féminin ?
Comment dire ? C'est exactement le rire que j'aime, parce que très souvent, le rire féminin n'est pas un rire sec. C'est pas un rire à base de vanne, comme on dit maintenant. C'est un rire qui vient du plus profond, du cœur, parfois même du corps, et il y a de l'émotion dans ce rire-là. Et c'est ça qui me touche, car j'ai des chromosomes féminins très développés. Et je m'entends très très bien avec les femmes. Il y a des femmes qui oublient que je suis un homme et qui me parlent comme une vieille copine. Et elles disent du mal des hommes, et j'en rajoute un peu, moi. J'adore tabasser les hommes avec des femmes.
Il y a un homme qui dit beaucoup de bien de vous, c'est Jamel Debbouze. Il dit que vous êtes monsieur Jourdain du stand-up. Vous pouvez décoder pour nous, néophytes.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est lui qui m'a appris le mot. J'apprends l'américain avec les arabes, moi. De toute façon. Mais j'adore Jamel. Ça, c'est un fils maghrébin que j'aurais pu l'adopter, celui-là. Tellement il... Moi, le côté conflit des générations, ça m'a toujours fait sourire.
Mais alors, non. Monsieur Jourdain du stand-up, ça signifie ?
C'est une allusion à Molière. Je faisais de la prose et je ne savais même pas que j'en faisais. Enfin, je cite inexactement Molière, mais c'est ça. Et c'est vrai que depuis des années, je parle à la première personne. On s'en est même pas aperçu, mais je fais plus de sketch, moi. Mais mes spectacles sont à la première personne. Je dis « je ». Dans mon dernier spectacle, je jouais un type qui est atteint d'une sorte de psychose et qui en gros dit que son engagement politique ne vient pas de lui, que c'est des voix qu'il entend et qu'il est influencé par Jean Jaurès, Victor Hugo, Louise Michel, etc. C'était un peu pour taquiner, et parfois un peu durement, la gauche actuelle.
Pourquoi vous voit-on si rarement au cinéma, depuis quelque temps, Guy Bedos ?
Parce que d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on a tendance un tout petit peu à mettre des cloisons entre les genres, et que mon ascension, mon irrésistible ascension au musical, a fait qu'on s'est dit « Oh, ça ne doit pas l'intéresser », etc.
Or, ça vous intéresse.
Bien sûr que ça m'intéresse, moi, tout m'intéresse, je veux tout. Et j'ai pas dit mon dernier mot au cinéma. J'ai un projet formidable. Mais je lis des films, et je vous dirai pas lesquels, qui ont du succès, mais dont j'aurais envie de racheter les copies tellement j'aurais honte d'avoir tourné là-dedans. C'est clair. Des films à succès. Moi, les films qui m'intéressent, généralement, c'est des films qui vont être difficiles à monter, parce que ça veut pas dire que ça soit chiant pour ça, mais c'est des films un peu plus ambitieux, un peu plus sensibles, un peu plus intelligents, un peu plus...
Comme par exemple
Les Sentiments. par exemple, oui, de Noémie Loschky, oui, avec Bakri, La Petite Carré et Nathalie Baye. Et j'ai trouvé ça absolument exquis.
Délicieux.
Oui. Ouais. Par exemple, voilà, celle-là, quand elle veut. Noémie Loschky. Et d'autres films. Les films de Tavernier. Tavernier, il adore ce que je fais, mais il me fait jamais tourner. Ils sont plusieurs comme ça. Ils viennent me voir, ils m'envoient des mots pour me dire que je suis génial et tout ça. Eh, fais-moi tourner, connard.
Avec un petit peu de réverb, là, je pense que ça arrive jusqu'à ses tympans. Guy Bedos, de vous, vous dites, je suis quelqu'un de très, très gentil, mais ça se sait pas. J'imagine que c'est pas votre trait de caractère principal.
Si, 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 si. J'ai appris la méchanceté à Paris.
C'est ce qui vous caractérise. C'est à Paris que vous avez appris la méchanceté.
Oui, parce que j'étais un immigré, moi. Quand je suis arrivé de mon Algérie natale, j'ai écouté parler les gens dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, etc. Et j'ai appris la méchanceté parisienne sur le tas. Et sur le tard aussi. Parce que j'étais beaucoup plus naïf que ça. J'étais bagarreur, je me castagnais, tout ça, physiquement, tout ça. Mais la méchanceté, non, c'était pas... J'étais drôle, je crois, déjà, mais j'ai appris. J'ai appris ici, j'ai appris la langue. J'ai appris la langue et j'en suis devenu même, voilà.
En 40 ans dans ce métier, on perd absolument toutes ses illusions.
Non, mais non.
Mais non.
J'ai plein d'illusions encore. Je pense que... Je crois pas au bonheur, parce que c'est un peu une dictature, la dictature de bonheur. Non, le bonheur, il y a des moments de bonheur. Mais là, j'enfile des perles. Hein,
ça sonne rentabilité, hein, la dictature du bonheur.
Oui, c'est... Non, mais je veux dire, il y a des gens qui font semblant d'être heureux. On est dans le faux, souvent. Non, non, moi, je suis jamais heureux complètement. Je peux pas être heureux dans un monde tel qu'il est. Non, non, je peux pas. Pas complètement. Mais j'ai des satisfactions. Et je pense pas au malheur du monde... tout le temps.
Surtout quand vous êtes heureux en famille. Vous êtes marié depuis 27 ans. Vous êtes
26.
Vous êtes l'homme le plus discret.
Ma femme, elle aime pas
26. Vous êtes l'homme le plus discret qui soit, puisque en 26 ans de mariage, vous avez toujours réussi à refuser la traditionnelle photo du bonheur en famille que proposent les magazines People.
C'est vrai.
Vous courez plus faire... vite que les paparazzi, Guy Bedos.
Non, j'ai pas besoin de courir. J'ai une maison en Corse, par exemple. Les Corses m'ont très bien accueilli. J'ai plein d'amis en Corse. Et ils me protège de ça, parce qu'on pourrait venir faire je suis pas très intéressant dans la vie, voilà, j'ai la même femme, j'ai les mêmes enfants, ils grandissent, voilà, c'est tout.
Alors vous dites je ne suis pas très intéressant dans la vie, vous savez vivre en dehors de la scène, par exemple?
Ah oui.
Vous avez des passions qui ne vous renvoient pas forcément à vous?
Ah oui, bah, j'ai des passions pour l'amitié, pour... j'adore une maison pleine d'amis de tous âges, j'adore, comment vous dire, en revanche j'ai pas de hobby, vous voyez, j'ai pas de, je fais pas de collection de timbres et de conneries comme ça, non non, ma passion c'est la vie, vous savez, la vie, et les gens, les êtres, je suis un spectateur dans la vie. Là, je parle parce que si je me taisais, on peut pas faire des mimes à la radio. Mais je me tais dans la vie beaucoup. J'écoute, je regarde. Je suis un glouton optique et auditif. Je suis un peu cannibale aussi.
Alors, puisque vous êtes un glouton optique et auditif, est-ce que vous avez assez d'humour pour rire de la peur de la vieillesse?
Bien sûr, je passe ma vie à mourir sur scène. J'ai joué ma mort au moins 10 fois.
Eh ben justement, ça, bien évidemment, c'est pour l'exorciser. Donc ça prouve une sacrée trouille.
Mais évidemment.
Hein ?
Eh ben je vais vous dire, c'est pas de la mort que j'ai peur, parce que j'étais sur une table d'opération une ou deux fois. Je me souviens, j'étais dans un hôpital où sont nés mes deux derniers enfants, Nicolas et Victoria, et où sont morts deux de mes amis. Pierre Desproges et Michel Drache. J'étais sur le chariot qui m'emmenait à la table d'opération, j'ai dit, deux de mes enfants sont nés ici, deux de mes amis sont morts ici, pour le moment vous avez la moyenne, faites pas les cons. Mais j'ai compris en étant anesthésié que la mort est une abstraction. C'est la peur de la mort. Là, je me suis un petit peu montré ces temps-ci dans cette histoire autour de l'affaire Humbert et tout ça, parce que je fais beaucoup d'heures supplémentaires, vous savez, moi. Je fais pas que du spectacle. Quand vous me demandez quels sont mes hobbies, mes hobbies, c'est d'être le parrain des blessés de l'explosion du site AZF de Toulouse. C'est d'avoir essayé de faire une troupe dans les cités et de l'avoir réussi d'ailleurs. Bon, après Martine Aubry n'a pas suivi. Ça, c'est son problème. C'est entre elle et elle et sa conscience et elle. C'est de faire des choses. C'est d'avoir largement contribué alors qu'il n'y a pas de preuve que je sois juif. Bon, prépuce c'est intact, mais s'il y a un mémorial d'Izieux à Izieux, j'y suis pour quelque chose. C'est moi qui l'ai vendu à Mitterrand, qui l'a inscrit aux grands travaux du président. Il en était le président honoraire. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il avait été ami avec Bousquet jusqu'en 86. Bousquet, l'assassin du Vel'd'Hiv, de la rafle du Vel'd'Hiv, ça m'a un peu contrarié.
C'est peut-être même pour l'une de ces raisons-là que vous avez refusé la Légion d'honneur qu'il se proposait de vous remettre.
Oui. Oui, parce que j'étais en mauvaise compagnie, parce que j'ai su à qui il l'avait donné. Le livre de Péan, qui d'ailleurs n'en voulait pas à Mitterrand, mais c'est pas de sa faute si la photo de Mitterrand apparaissait dans son laboratoire de développement à chaque... Il voulait faire un livre sur les années Vichy, la collaboration, la résistance, etc. Et Mitterrand a eu une carrière de slalomeur politique extrêmement troublante. Ça lui enlevait pas ni son talent, ni son charme, ni sa culture, que peuvent lui envier beaucoup d'hommes politiques qui sont vivants.
Relisons Machiavel.
Voilà.
Dans quelques instants, la suite de cet entretien d'Isabelle Morizet avec Guy Bedos. Il est 15h54 et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. On retrouve Guy Bedos au micro d'Isabelle Morizet pour la suite et fin de leur conversation. C'était en 2004, à l'occasion d'une pièce de théâtre intitulée Sortie de scène.
Le 14 janvier, vous allez monter sur la scène du Théâtre Hiberto à Paris, Guy Bedos, avec des mots ciselés par votre fils Nicolas. Votre fils Nicolas qui a 25 ans, seulement 25 ans. Ça signifie que la colère n'a pas d'âge.
Évidemment. Mais Nicolas, d'ailleurs, il a donné une ou deux interviews seul. Il dit, mais on pense que Monceau, c'est mon père. Non, Monceau, c'est moi. Il s'appelle Pierre Monceau, exactement. Et bon, peu importe. Et c'est vrai que Nicolas, il est une bande à lui tout seul. Là, c'est le père qui parle. C'est-à-dire qu'il peut avoir 12 ans, Et 55 ou 60 ans dans la même journée. On ne sait jamais auquel on parle. Et donc, il est très troublant d'ailleurs. C'est très troublant un auteur, parce qu'il peut faire parler une jeune fille, il peut faire parler un presque vieillard. Les auteurs ne sont pas, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ne sont même pas des êtres comme les autres, je trouve.
Alors la colère n'a pas d'âge, mais les souvenirs non plus n'ont pas d'âge, puisque vous êtes en train de rédiger Mémoire d'Outre-mer. Le livre paraîtra dans quelques mois chez Stock.
Oui, et là c'est un enfant qui écrit. C'est le père qui tient la plume, mais c'est l'enfant qui, au départ en tout cas, après, parce que après les mémoires se transforment en journal et je parle d'aujourd'hui et ça fait la navette entre hier, aujourd'hui et j'ai pas fait le journal d'Anne Frank, hein. C'est plutôt un livre d'espoir, un livre de résilience, justement. Et c'est, vous allez dire que je suis en train de faire le tapin pour avoir un jeune public, mais j'aimerais que des jeunes gens lisent ça, parce que j'en vois de bien malheureux, et je voudrais qu'ils lisent ça pour que, justement, ça leur donne envie de continuer le voyage.
Avant de nous quitter, Guy Bedos, pourquoi la pièce s'appelle-t-elle « Sortie de scène » ?
Parce que Monceau meurt à un moment, et c'est donc une sorte de métaphore. Voilà. C'est vrai. Il donne son dernier spectacle en jouant sa fin, sa mort. Et il s'autorise tout, puisque de toute façon, tout est foutu pour lui.
Vous, dans quel état êtes-vous lorsque, sur scène, comme par exemple au cours du dernier spectacle, vous êtes dans un fauteuil, renversé, devant le public qui est debout à vous acclamer, en train de pratiquement revivre la mort de Molière? Dans quel état vous trouvez-vous lorsque vous faites ça sur scène?
Ce que je peux vous dire, c'est que l'expression « entrer dans la peau du personnage », je la réfute. C'est le personnage qui vous entre dans la peau. La meilleure preuve, c'est que quand j'ai joué Hitler, car c'était Hitler que je jouais dans La Résistible Ascension d'Arthur Rouille à Chaillot, parabole, c'était un gangster à Chicago, etc. Mais c'était Hitler. Et ça raconte l'histoire d'Hitler. J'étais obligé d'appeler un ostéopathe parce que j'avais une sorte de quasiment de paralysie du bras droit. Je n'arrivais plus à faire le salut nazi. J'appliquais la distanciation brechtienne, mais physiquement, c'est-à-dire que je ne pouvais plus le faire. Il a fallu me remettre, il a fallu me réparer, quoi, parce que mon corps se refusait à laisser entrer cette sorte d'alien dans mes entrailles.
Encore le somatisme de l'enfance qu'on avait évoqué au début de cette conversation.
Peut-être, oui. Oui. Mais il faut rester un enfant jusqu'au bout. C'est un gage de vraie survie.
Merci Guy Bedos.
Merci à vous. Merci vraiment.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'hommage d'Isabelle Morizet à Guy Bedos qui nous a donc quitté cette semaine. Et Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h sur Europe 1. Elle s'entretiendra avec Alexia Laroche-Joubert qui produit depuis 2016 Koh-Lanta et dont la grande finale aura lieu vendredi prochain.